Vous devez peut-être vous demander ce que je viens faire ici, le ministère de la Défense, on vient parler d'innovation. Ça peut être étonnant pour vous. Alors, difficile également de parler après Grégory, puisqu'il a un peu défloré le sujet de l'innovation participative. Je vais vous parler de l'innovation participative au ministère de la Défense. C'est peut-être étonnant, mais on est effectivement une entité qui s'appuie sur l'innovation participative pour développer les compétences des personnels et éventuellement faire évoluer les matériels. Alors, on est bien sûr complémentaire de ce qu'on appelle chez nous l'innovation institutionnelle qui permet de développer les futurs programmes, le successeur des Rafales, des chars, etc. Donc, je vais commencer par un petit exemple d'innovation participative et on va voir qu'on est dans une logique d'entrepreneuriat. Ça marche. La vidéo n'est pas d'excellente qualité.
Aujourd'hui, toute récupération de personnes situées dans des zones dites exposées, nécessitant l'emploi d'hélicoptères, implique soit le poser de l'appareil, soit la mise en œuvre d'un treuil ou d'un système dit de la grappe. Le poser de l'hélicoptère est parfois impossible. L'emploi du treuil est limité par la capacité d'emport et la lenteur de mise en œuvre. La grappe nécessite des harnais d'arrimage et n'autorise pas l'emport de blessés. La nacelle réalisée par les innovateurs peut être larguée au travers de la trappe centrale de l'hélicoptère, le choc déclenchant l'ouverture de la corolle. Les personnes à évacuer peuvent embarquer rapidement dans la nacelle ainsi déployée et les blessés peuvent être allongés dans le filet. Cette innovation peut recevoir de nombreuses applications lors d'opérations militaires et de sécurité civile.
Voilà, donc le son était un petit peu fort, je vous prie de m'en excuser. Donc, qu'est-ce que c'est cette innovation? C'est l'innovation de gendarmes qui, dans les années 90-2000, sont venus nous voir et nous disent « voilà, j'ai un projet, comme on l'a vu, les systèmes existants ne permettent pas d'évacuer des personnels, ne permettent pas d'évacuer des blessés. On peut imaginer des ambassadeurs qu'il faut évacuer d'une ambassade quand elle est attaquée, par exemple. » 10 ans après, en 2012, voilà l'image, un radeau désert, cette même nacelle est expérimentée par les pompiers de Brignoles. Pourquoi les pompiers de Brignoles expérimentent cette nacelle? Vous vous souvenez, quelques mois auparavant, des inondations dans le Var, vous avez des personnes âgées, des personnes blessées qui sont sur les toits des maisons. Et comment les évacuer? Eh bien, ce système permet de répondre aux besoins. Voilà, c'est ça l'innovation participative, c'est l'innovation de quelqu'un qui a une idée sur son lieu de travail et qui va proposer une solution. Là, en l'occurrence, c'est effectivement aussi une logique d'intrapreneuriat. C'est tout ça qu'on va vous expliquer. On a mis en place au ministère de la Défense, depuis 25 ans, un système d'innovation participative qui s'appuie sur cette logique. Donc, qu'est-ce que c'est l'innovation participative? La définition telle qu'elle est, réglementée, c'est une démarche visant à stimuler, à soutenir l'émission, la mise en œuvre et la diffusion d'idées concrètes de progrès en provenance des individus. Bien entendu, le mot important, c'est en provenance des individus, en provenance des personnels, comme l'a dit Grégory tout à l'heure. C'est un mode d'innovation qui s'inscrit dans les démarches, j'ai mis entre guillemets, nouvelles d'open innovation, comme l'a dit Grégory. Il est clair qu'on ne peut pas faire de démarche d'open innovation, on s'ouvre sur l'extérieur, sans faire appel aux compétences des personnels de l'entreprise ou du ministère de la Défense en ce qui nous concerne. Alors ça existe depuis 25 ans. Ça existe depuis 25 ans. On était effectivement parmi les premiers, les pionniers de l'innovation participative en France. C'est le ministère de la Défense. En 1988, un amiral, un opérationnel, dans l'océan Indien, il est confronté à un certain nombre de problèmes parce que c'est un peu la première fois que la Marine nationale se déploie avec cette ampleur dans ce contexte. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait appel à l'intelligence de ses personnels. Il demande à tout le monde, ses hommes de base, qu'on appelle les matelots, les officiers mariniers, c'est-à-dire les sous-officiers, au niveau des techniciens, Et puis il y a ses officiers, on va dire les ingénieurs. Il demande à tous ses personnels de lui proposer des solutions, des améliorations pour améliorer l'efficacité de son système. Et puis, selon l'expression que nous utilisons, il est surpris, étonné par la puissance des idées simples qui remontent du terrain. Toutes les idées sont pertinentes. Et c'est le démarrage de l'innovation participative qui va se lancer en 95. Alors, c'est une démarche innovante et originale qui existe donc au ministère de la Défense depuis 25 ans. C'est un système qui permet à tout innovateur de tout grade et tout statut, c'est-à-dire du plus bas niveau, on va dire l'ouvrier peut venir me voir à Paris, je suis proche des états-majors, il va venir me présenter son idée, son projet. Hein, on va être dans l'innovation, vous l'avez vu tout à l'heure, l'innovation c'est pas l'invention, c'est pas la création, on est dans l'innovation, c'est-à-dire dans la concrétisation d'un besoin qui répond à un marché dans le monde civil ou à un besoin opérationnel. Donc il va venir me voir et on va soutenir son projet très rapidement. On a un système, je dis, voilà, le ministère de la Défense, de façon étonnante, est capable en un mois de donner jusqu'à 90 000 euros à une personne pour développer son projet. C'est de l'entrepreneuriat, voilà, puisqu'il va devenir maître d'ouvrage de son projet. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'appuyer sur toutes les compétences internes de l'entreprise, mais il devient maître d'œuvre. Il va effectivement pouvoir s'appuyer sur les compétences, mais également faire appel à l'extérieur. L'argent qu'on lui donne, l'argent qu'on met à sa disposition, va lui permettre de multiplier la force de frappe. Alors vous allez dire, c'est peut-être un peu étonnant. Pourquoi ne s'appuie-t-il pas sur les compétences de l'entreprise ? Eh bien parce que dans un régiment, si vous imaginez un régiment à Calvi, un régiment de légionnaires, eh bien, ce sont des gens opérationnels, des gens qui sont au terrain, qui manient leur matériel, mais qui ne disposent pas d'un bureau d'études. Le bureau d'études qui a conçu les armes, il est chez un industriel privé, il est à Paris, et donc il n'y a pas ce bureau d'études, il n'y a pas ces ressources techniques disponibles. Et donc, pour améliorer le matériel, soit on passe par un processus institutionnel où il va exprimer un besoin, dire voilà, ce matériel, il faudrait l'améliorer de telle ou telle façon, ça va mettre un temps considérable. Là, on va mettre en place une boucle ultra courte, ultra réactive, où on va permettre à l'innovateur de concrétiser son projet à partir des matériels existants, à partir de ce qu'il a pu, de ce qui peut exister, à partir d'une transposition de matériel civil, de pouvoir faire évoluer son matériel. Et on a donc une démarche ultra rapide, puisque, comme je le disais tout à l'heure, en un mois, on est capable de lui mettre jusqu'à 90 000 euros pour développer son propre projet. Ça n'existe nulle part ailleurs, même chez PSA, je ne pense pas qu'on soit capable de mettre en place un budget. Alors vous allez dire, le ministère de la Défense est riche. Dans le ministère de la Défense, il n'est pas si riche que ça. C'est un choix qui a été fait. C'est un choix qui a été fait depuis 25 ans et qui marche depuis 25 ans. Nous avons soutenu de cette manière plus de 1200 projets. Tous les ans, une cinquantaine de projets depuis 25 ans. L'innovateur devenant maître d'ouvrage de son projet. On essaye d'avoir des projets à taille humaine, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, 18 mois, 2 ans maximum, l'innovateur nous présente un projet, un prototype. Hein, la plupart du temps, ce qu'on va faire, ça va être une preuve de concept, proof of concept. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est l'innovation participative depuis 25 ans, et ça marche réellement. Alors, dès le début, on s'est aperçu que l'innovation participative de cette nature, qui était l'innovation dite spontanée, les gens ont des idées, ils viennent nous voir, eh bien, ne répondait pas complètement à tous les besoins, et donc on a lancé toute une réflexion managériale dès l'origine de la mission, c'est-à-dire dès 1988, et avec quelques grands acteurs du secteur public essentiellement, la RATP, la SNCF, et d'autres que j'oubliais, SNCF, RATP, La Poste, nous avons créé un groupe d'innovation participative qui a débouché en 2002 vers une association 1901 qui s'appelle Innovacteur, qui participe, qui remet des prix régulièrement. L'an dernier, PSA a reçu un prix. Et qui développe ce qu'on appelle l'innovation stimulée. L'objectif de l'innovation stimulée, c'est de considérer qu'effectivement, il ne s'agit pas de simplement recueillir les bonnes idées des gens qui sont un petit peu particuliers, qui ont cette mentalité d'innovation, mais de recueillir les bonnes idées de 80% des personnels. Les enjeux, passer de 0,3% de personnel concerné, c'est les statistiques, les gens qui sont vraiment des innovateurs dans l'âme et qui ont des idées, qui ont envie de progresser, à 80% de personnel par des systèmes de stimulation de bonnes idées. C'est l'innovation participative stimulée, celle qui existe dans les grandes entreprises et qui permet, l'objectif étant de libérer les capacités d'initiative et de créativité. Vous demandiez tout à l'heure, madame, comment faire pour faire sortir les gens de la boîte. Eh bien, c'est ça. L'innovation participative, c'est mettre en place tout un dispositif qui permet aux gens de sortir de la boîte. Alors, comment fait-on pour faire sortir les gens de la boîte? Eh bien, d'abord, comme toute démarche, hein, c'est ce qu'on apprend, les démarches, qualité, etc. Première condition de réussite, c'est l'implication, l'engagement de la direction. Implication, l'engagement de la direction, ça ne veut pas dire... On parle de grosses structures. Hein, je ne vous parle pas de toutes petites PME où parfois on peut penser que c'est plus facile, ce qui n'est pas toujours le cas quand même. On parle de grosses structures. L'implication, l'engagement de la direction, ça veut dire le directeur, il s'implique vraiment de façon très personnelle dans l'innovation. Il va participer à des remises des prix. Il va donner des objectifs à ses collaborateurs. Il va les suivre de très près. Il va donc mettre tout ça sous gestion de projet. C'est ça l'implication forte de la direction. Et sans cette implication forte, cette innovation stimulée, ben ça va marcher, ça va être du one shot, ça va marcher une fois, deux fois, et puis ça va s'écrouler. Donc, l'implication, l'engagement personnel de la direction. Et puis le deuxième point, le plus important, c'est un mot capacité, je cite toujours Grégory, qui est notre mentor aujourd'hui, c'est la confiance. La confiance, ce n'est pas un mot qu'il a employé, nous c'est le mot qu'on utilise. Voilà. Pour que ça marche, innovation participative, c'est la confiance. La confiance, j'ai une belle histoire qu'on nous a racontée, une entreprise agricole en Bretagne qui a des difficultés, élevage de poulets. Là, je vous plaît, c'est pas facile, c'est la crise. Un matin, le chef d'entreprise se réveille et dit à ses personnels, réunit tous ses personnels et leur dit, on va pas faire un plan social, couper une branche par-ci par-là, économiser 10 personnes par-ci par-là. Non. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ou on s'en sort tous, ou on crève tous. Ou on s'en sort tous, ou on crève tous. Et il dit, pour s'en sortir, il faut que vous m'apportiez des bonnes idées pour sortir l'entreprise du marasme. Et au bout de la semaine, eh bien, il a 200, 300 idées. Qui lui permettent effectivement de sauver son entreprise. Alors il se retourne vers ses collaborateurs directs, c'est N-1 comme on dit, et il dit, mais, excusez-moi de la vulgarité, putain ces salauds, ils avaient des bonnes idées et ils ne me l'ont pas dit. Et les N-1 ben, lui répondent tout clairement, mais monsieur le directeur, vous ne nous l'avez jamais demandé. C'est ça l'innovation participative, c'est faire confiance aux subordonnés, faire confiance en leur demandant. Et la confiance, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. C'est également ne pas... on apprend dans les managers, hein, il faut aller au contact de vos personnels, donc le matin, vous allez leur demander, alors la chasse, ça s'est bien passé, etc., etc. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est aller voir les personnels pour leur demander de quoi ils ont besoin. Ça s'appelle aussi l'entreprise inversée. C'est-à-dire, ce sont les personnels qui produisent. Ce n'est pas le directeur, ce n'est pas le directeur commercial qui vend, ce sont les personnels qui produisent. Et tout l'ensemble de la boîte doit se mettre au service de la production. Il faut faire confiance, il faut se mettre au service de la production. C'est ça le discours de l'innovation participative, c'est ça qui permet à l'innovation participative de marcher dans une entreprise, c'est ça qui permet aux gens de sortir de leur boîte. Et puis, dernier point, facteur clé de réussite, c'est animer. Il faut animer en stimulant, il faut animer en mettant en évidence les réussites. Hein, c'est toujours le problème de ces démarches. Il faut mettre en évidence, on fait un projet pilote, il montre que ça marche, on le met en évidence, et puis ensuite on construit autour de ça. Il faut animer par des régimes de récompense, par ce qu'on appelle du management par des défis. Hein, on lance des défis, on lance des concours d'idées. Hein, on anime. Ben, les résultats sont au rendez-vous. Les résultats sont en rendez-vous, au moins en ce qui nous concerne, au ministère de la Défense, mais l'association Innovacteur rencontre régulièrement, tous les ans, de toutes ces réussites de l'innovation participative. Des économies mesurables, c'est le cas le plus fréquent quand on est dans le monde de l'industrie, ou pas. Je donnerai un exemple, si on a un petit peu de temps, de l'innovation participative non mesurable. Un terreau pour des innovations de rupture. La plupart des innovations qui sortent de l'innovation participative, ce sont des innovations incrémentales, des innovations de terrain, des petites améliorations, c'est-à-dire du kaizen, pour parler en japonais. Mais pas seulement. Le fait d'ouvrir la parole à tous les personnels, le fait de leur donner confiance à proposer des solutions, permet également de fournir des innovations de rupture. Et c'est vrai, nous on l'a constaté, il y a des innovations de rupture qui vont sortir des personnels. Et puis, une motivation accrue. toute cette démarche d'innovation participative, effectivement, elle permet à l'entreprise de récupérer les bonnes idées des personnels. Mais au-delà, elle, par ce climat de confiance, elle crée une motivation accrue, et puis donc, par cette boucle vertueuse, une amélioration de la productivité, de baisse d'absentéisme, etc., etc. Une motivation accrue. Alors, on a un tout petit peu de temps. Je vais vous passer une autre innovation que j'aime bien également. Essayez peut-être de baisser le son.
Lors de mon affectation au groupement aéroporté de la section technique de l'armée de terre en 2003, j'ai mené une étude sur le largage de ravitaillement à très grande hauteur sous oxygène. Cette technique de largage permet à l'avion largueur de réaliser cette mission en restant à l'abri de la menace sol, mais elle souffre d'un manque de précision important. Pour améliorer la précision du largage réalisé entre 7 et 8 000 mètres d'altitude, j'ai étudié et conçu un dispositif simple et fiable qui permet l'ouverture des voiles à environ 300 mètres de hauteur, avec une précision régulièrement inférieure à 300 mètres du point visé. En 2005, j'ai présenté mon projet au chef du groupement aéroporté qui m'a donné son accord, puis à l'officier d'utilisation opérationnelle de l'armée de l'air qui m'a permis de réaliser le premier largage à 2500 mètres. Le succès de ce premier largage m'a permis de poursuivre l'étude et les essais de largage. En 2007, deux campagnes de largage à très grande hauteur ont permis de finaliser le conditionnement du fardeau, de relever les vitesses de descente sous voile et la mise au point du logiciel de calcul du point de largage. Le système de largage de matériel à très grande hauteur avec ouverture basse permet le ravitaillement rapide et précis des unités dispersées, voire isolées. Le premier largage en opération a été réalisé par l'officier d'utilisation opérationnelle de l'armée de l'air et la STAT en juillet 2008. Depuis, ce sont plus de 200 missions et 450 fardeaux qui ont été largués au profit de la coalition en Afghanistan, mais aussi plus récemment, en 2011, en Libye, lors de l'opération Armata.
Bon, c'est un peu plus guerrier, hein. J'en suis désolé. Voilà, une innovation participative. Un adjudant, donc un technicien, on va dire, qui propose une innovation. La petite histoire dit que ce besoin existait. Il s'agissait, vous l'avez compris, de larguer à très haute altitude pour éviter que l'avion ravitailleur se fasse descendre, mais larguer quand même les charges avec précision pour éviter qu'elles arrosent un peu partout et qu'elles ne tombent pas chez le destinataire. Donc la demande existait opérationnelle. Ben, les industriels n'y sont pas arrivés. Les industriels de l'armement n'y arrivaient pas à trouver cette solution. C'est un sous-officier qui a trouvé une solution simple et rapide pour répondre à ce besoin. Solution simple et rapide, et puis derrière, il va voir son chef, parce que justement, il y a une ambiance où il sait qu'on va lui faire confiance, et effectivement, son chef lui fait confiance, son chef de l'armée de terre. Ensuite, il faut faire aussi convaincre l'armée de l'air. Tout ça, ça coûte cher, ces expérimentations. Il faut envoyer des avions en l'air, ça peut être dangereux, etc. Il y a une relation de confiance qui permet d'aboutir à une innovation que l'industriel, spécialiste du domaine, n'était pas capable de réaliser. Donc, de l'innovation participative. L'innovation participative, et c'est mon avant-dernière planche, est au cœur du management de demain. En tout cas, c'est nous ce qu'on pense, et on n'est pas les seuls à le penser. Hein, si vous lisez la presse tous les jours, il y a quelques jours, il y avait un article dans Le Monde. La semaine dernière, un article dans Air et Cosmos. Dans Air et Cosmos, qui fait ses 50 ans, qui est la revue de l'aéronautique. Air et Cosmos interroge tous les grands industriels. Et un des plus grands industriels, Safran, hein, que vous connaissez, qui est quand même une entreprise dynamique et innovante. Voilà, il s'exprime sur l'innovation. Son enjeu pour l'entreprise, la survie de l'entreprise, c'est l'innovation. Et dans cette innovation, il y a l'innovation des chercheurs, mais il y a surtout l'innovation participative. Plus de 30 000 idées d'amélioration sont émises par les personnels. Pourquoi ça marche? Ça fait plusieurs années que Safran se lance dans cette démarche. Il y a une relation de confiance. Il y a le chef qui y croit. Oser la confiance. Et l'élément important, c'est remettre l'humain au cœur de l'entreprise. La dynamique d'écoute, de participation, la confiance crée la motivation. C'est Laurence Vanet qui le dit, qui est, directrice des ressources humaines à la Sécurité sociale belge. Et elle dit ça, ne motivez pas, faites confiance. Alors elle n'est pas directrice des ressources humaines, elle est Chief Happiness Officer. C'est ça. Donc voilà, l'innovation participative, c'est ça. C'est la confiance, oser la confiance, faire confiance à ses personnels de tout niveau, de tout statut. L'enjeu est de permettre à chacun d'être un acteur à part entière de l'innovation. Donc mettre l'humain au cœur de l'innovation. On n'est pas l'innovation qui vient modifier l'humain, comme on l'a pu le voir en tout début. Là, on est vraiment dans l'humain qui est au cœur de l'innovation. Et la dernière planche de conclusion, c'est la bibliographie. La bibliographie, non pas pour vous dire d'acheter les bouquins, d'abord ils ne sont pas de moi, mais surtout pour voir les titres. L'innovation à tous les étages. Tous les étages d'une entreprise doivent participer à l'innovation. Le cadre, dirigeant, le technicien, l'ouvrier à la production. L'entreprise créative. Donc voilà, comment rendre une entreprise créative? Vos idées changent tout, système de management d'idées. Manager par les défis, c'est une façon de stimuler l'innovation participative. Le management des idées, et puis, dernier point, l'ouvrage le plus récent de Muriel Garcia, qui est la présidente de l'association Innovacteur, innovation participative, remettre l'humain au cœur de l'entreprise. En fait, qu'est-ce que c'est l'innovation participative? C'est aller à l'encontre de la démarche de Taylor, où on spécialise l'entreprise, on dit il y a un chercheur, un bureau d'études, il y a les bureaux d'études qui sont intelligents, et puis derrière, il y a des mains qui exécutent. Non. L'innovation participative, c'est considérer que dans une entreprise, on n'a pas une tête et 400 bras, mais on a 400 cerveaux, ou 200. Voilà.
Bonsoir, excusez-moi, c'est pas vraiment en fait une question, c'est plutôt pour rebondir sur ce que vous disiez sur la confiance, faire confiance. C'est quelque chose sur lequel je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est surtout penser que l'innovation, ça peut emmener quelquefois à des échecs à court terme. Il faut savoir que l'échec, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. On peut rebondir dessus, ça peut être amené à une réussite derrière. Voilà, donc faire confiance et s'attendre à ce que ça puisse éventuellement échouer. Et rebondir dessus, savoir rebondir dessus comme il faut. Voilà. Vous avez l'air d'accord.
Tout à fait. Je fais donc des interventions dans l'ensemble du ministère de la Défense pour effectivement expliquer la démarche innovation participative. Et c'est un mot très important que nous citons, que je cite régulièrement, c'est le droit à l'erreur. Ça fait partie de notre charte de l'innovation participative, c'est le droit à l'erreur. Et je cite effectivement souvent cet exemple. Il y a quelques mois, dans les Échos, il y avait un article qui citait le comportement des banques françaises. Les banques françaises ont un fichier des entreprises. Une PME qui échoue, eh bien, elle a une mauvaise note, et quand elle revient dans une banque, elle ne dispose pas de crédit. Aux États-Unis, c'est le contraire. Dans le monde anglo-saxon, c'est le contraire. Une entreprise qui a besoin de lever des fonds, si elle se positionne en disant « j'ai eu un premier échec, maintenant j'ai appris, je demande des fonds pour un deuxième lancement », eh bien, elle obtient les fonds beaucoup plus rapidement. Voilà, effectivement. Et donc, dans les écoles de management, il est important, ça fait partie un peu des nouvelles démarches ministérielles, de dire « il faut apprendre l'innovation, il faut apprendre le droit à l'erreur ». Il ne faut pas simplement apprendre l'informatique, comme on le lit dans le dernier bouquin sur l'innovation, mais il faut surtout apprendre effectivement le droit à l'erreur. Ce qu'on apprend aussi, ce que j'enseigne en quelque sorte, c'est faites-vous l'avocat de l'ange. On apprend dans les écoles, vous n'avez peut-être pas ici, mais dans les écoles d'ingénieurs, quand quelqu'un vous apporte une idée, on vous dit faites-vous l'avocat du diable, essayez de montrer ce qui ne marche pas dans le projet. Ce qu'on essaye d'apprendre dans l'innovation participative, quand un collaborateur de terrain vient vous voir en apportant une idée, faites-vous l'avocat du diable, c'est-à-dire écoutez et dites avec lui, ton idée, elle est très bonne, je la prends. On va regarder ensemble comment on peut l'améliorer, mais ton idée, elle est bonne, je la prends. On ne commence pas par se faire l'avocat du diable, faites-vous l'avocat de l'ange en matière d'innovation participative. Faites confiance. Et le droit à l'erreur.
Bonsoir à tous, bonsoir M. Massé, merci. Là, c'est un exemple un peu particulier, c'est quand même l'armée, quoi, on va dire. Donc, la majorité sont des internes.
Pardon, et...
La majorité sont des internes, c'est-à-dire sont des gens qui sont embauchés, qui sont en interne. Il faut savoir qu'en France, depuis, on va dire maintenant, plus de 15 ans, on vit dans une société de prestataires, quoi. Énormément de sociétés, des SS2I, sont goinfrées sur les services publics, les entreprises du CAC 40, parce que c'était, on va dire, plus la droite qui était au pouvoir, donc le but c'est de filer aux petits copains, externaliser, quoi. Et donc, je veux dire par là, c'est comment vous voulez qu'un prestataire, qui lui n'est pas interne à l'entreprise, et au contraire on envoie pour tout casser, pour au contraire rajouter du boulot, plus qu'autre chose, quoi. Lui, déjà, il est, enfin, qui va être, enfin, parce qu'on revient au niveau de l'humain, c'est cet humain, on va le, qui sont broyés, on va dire, je donne l'exemple des SS2I, qui broyent tous ces ingénieurs chaque année, et qui après, l'innovation ne vient pas, quoi. Pourquoi on ferait pas, enfin, tous comme l'armée, quoi, c'est-à-dire on internalise tout le monde dans les sociétés, et puis on leur donne 90 000 euros à ceux qui veulent être innovants. Je veux dire, c'est un bon exemple. Et c'est possible peut-être avec ce nouveau gouvernement, parce que c'est quand même un gouvernement socialiste, plutôt, on va dire, même, on va dire, peut-être de gauche, et peut-être tous nos problèmes vont se régler si on fonctionne comme vous, quoi, non ? Enfin, oui. Une réponse.
Ouais, des éléments. Au ministère de la Défense, on externalise également beaucoup, donc on fait pas tout en interne. Je sais pas si vous l'aviez dit également. Mais il est clair que, on l'a pas dit, mais l'innovation participative, c'est une innovation simple, efficace et pas chère. Le fait de faire en interne, c'est un des éléments que vous avez mentionné, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher que de faire appel à des sociétés extérieures. C'est vrai, mais ça répond pas à tous les besoins, et voilà, ce sont simplement, j'allais dire, quelques niches, quelques axes d'innovation. On ne peut pas fonctionner uniquement avec l'interne, on est obligé de s'appuyer.
Non, mais j'en doute bien, c'était pour rire. On ne peut même pas tous fonctionner, je veux dire, en mode start-up. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on va mettre... tout le monde va lancer sa start-up qu'il y ait 5 millions de chômeurs en moins du jour au lendemain. On ne va pas dire que toutes les start-up ont fait baisser le chômage. Je veux dire, tout ne se règle pas d'une façon ou d'une autre, mais c'était juste... Voilà, quand même, c'est quand même un point important qu'il faut quand même être interne pour innover, quoi. Sinon,
il y a l'Open Innovation, on s'appuie sur un écosystème et on peut innover en collaboration. Là, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'innovation interne, l'innovation participative. Les deux sont complémentaires, hein, comme l'a montré Grégory. Hein, ça fait partie juste un bloc parmi les quatre. L'innovation individuelle, que ce soit l'innovation participative interne ou bien l'innovation va faire appel aux individus externes en tant que clients, ce qu'on appelle le crowdsourcing. Voilà, mais...
Merci beaucoup.